Alors, Roméo Bouchard, bonjour. On est content. Une fois de plus, on se rencontre chez vous à Saint-Germain-de-Kamouraska.
Oui, c'est très gentil de venir me voir.
C'est le début de l'hiver et on arrive tout proche de Noël et on se disait, c'est peut-être le temps de faire un petit peu le bilan 2023 puis la vision qu'on peut avoir pour 2024 en ce qui concerne l'agriculture. Un des sujets majeurs de cette année, évidemment, c'est la crise porcine. Je voulais juste voir avec vous, quelle est votre lecture de la crise porcine, alors peut-être d'une part de la répartition de la SRA auprès des intégrateurs, peut-être la politique de retrait, les 80 millions que le gouvernement va donner justement aux producteurs pour qu'ils se retirent de la production. Puis qu'est-ce que ça vous dit, vous, de la situation de la crise porcine?
Ben, je trouve que la crise porcine, c'est un peu le symptôme là, de la crise de notre modèle d'agriculture en général. C'est très symptomatique de tout ce qui devrait être revisé dans notre modèle agricole, c'est-à-dire le modèle d'intégration, le modèle d'exportation, le modèle de financement par l'ASRA. C'est toutes des grandes orientations qui ont été prises dans les années 90 et dont on s'aperçoit qu'elles sont en train de détruire toute l'agriculture autonome du Québec, tu sais, drainer toutes nos énergies agricoles, toutes nos ressources agricoles, toutes nos ressources des terres agricoles vers une production qui n'est pas faite pour nous, qui ne nous sert pas, nous, qui finalement ne sert qu'une poignée de grands intégrateurs, d'exportateurs, de grandes chaînes de production de machinerie, d'intrants agricoles et tout ça. Mais on se ramasse avec des dégâts de plus en plus importants. Ne serait-ce que la difficulté de trouver de l'eau potable. Actuellement, le nombre de municipalités qui sont en trouble pour leur eau potable est incroyable.
Maintenant qu'on est un peu au pied du mur face à la crise porcine, est-ce que vous pensez qu'actuellement, il y a un leadership qui est en train de se déclarer pour que les choses changent finalement?
Non. Non. Je ne vois justement pas la... C'est ça qui est un peu triste, c'est que...
Parce que le constat de l'email, le constat au l'email, ce lieu, on le voit, là, c'est compliqué. Là. Il y a un soutien majeur du gouvernement, peut-être nécessaire d'ailleurs, parce que ce lieu, c'est très important dans l'agriculture, et peut-être que faire tomber ce lieu, ce serait très grave.
Non, les solutions qu'on apporte, c'est juste des cataplasmes. C'est des fonds de secours, c'est de l'aide ponctuelle pour aider des producteurs qui vont abandonner la production. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de nouveau projet agricole. Là, on est en train d'assister à la déconfiture du modèle agricole des années 90. Et on n'en a pas d'autre à proposer. On ne fait juste que rapiécer la vieille camisole, là. Et puis on n'a rien... Parce que le débat sur ce que pourrait être et ce que devrait être l'agriculture, il ne se fait pas. Il était là, il était ouvert d'une façon magistrale par le rapport Pronovo. Personne n'a voulu le faire, le débat. Le rapport Pronovo est toujours là, en attente. Et personne ne veut s'en, ne veut, ne serait autrement que pour se vanter d'en faire son étoile du Nord. Personne ne prend au sérieux ce qu'il y a là-dedans.
Agricole
complètement.
Vous avez tenté d'alarmer, d'ailleurs, il y a eu un sujet à la semaine verte récemment sur la crise porcine. Vous avez tenté d'alarmer sur ça. Vous êtes sorti de là un peu déçu, je pense.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, on m'avait demandé de traiter uniquement d'un aspect de la crise porcine, qui n'est pas celui dont on parle le plus en ce moment, là, mais les impacts environnementaux de cette industrie-là depuis les années 90. Et je me suis fait complètement charcuter au montage de l'émission, tu sais, parce qu'on n'a pas voulu aborder ce point de vue-là. On a supprimé ce que j'avais dit et on a remplacé par un discours de producteurs qui ont fait la défense du statu quo. T'sais. Alors, on voit qu'il y a un blocage pour réfléchir au nouveau modèle qu'il faudrait commencer à mettre en place et à imaginer.
Alors, parlant de nouveau modèle,
C'est bloqué.
Parlant de nouveau modèle, on sait qu'en 2019, l'Institut Jean Garon avait fait un rapport sur le zonage agricole, de réflexion, j'allais dire, sur la loi. Là, on sait que le ministre Lamontagne, au mois de juin dernier, a lancé une grande consultation sur le zonage. Il y a deux fascicules de sortie. Le plus intéressant est à venir, c'est celui sur à qui appartiennent les terres. Mais au final de tout ça, il y aura des recommandations, j'imagine. Comment les choses vont se concilier, selon vous, entre cette consultation sur le zonage et les ambitions d'un gouvernement caquiste qui veut quand même aussi développer le territoire agricole pour l'économie du Québec?
Tout dépend si on va aborder les vraies questions. T'sais, actuellement, ce que j'ai vu à date des documents, c'est que ce sont des documents de fonctionnaires, d'abord, qui ont été produits par des fonctionnaires qui ont très peu d'envergure et qui ne posent pas qui posent pas les vraies questions. T'sais. Actuellement, le territoire agricole, c'est bien beau de dire comme l'UPA sur toutes les tribunes, attention, faut préserver nos terres, c'est notre garde-manger, etc. C'est un point de vue limité, ça. Qu'est-ce qu'on veut en faire de nos terres? T'sais, les conserver pourquoi? T'sais, actuellement, on fait un mauvais usage de nos terres agricoles. C'est pas parce qu'on les donne pour faire des banlieues. Oui, il y a un problème de ce côté-là, c'est évident. Il y a une tendance à empiéter dans le développement résidentiel. Il y a des implantations industrielles importantes là, qui sont en marche, qui vont affecter un certain nombre de terres agricoles. Mais qu'est-ce qu'on en fait des terres agricoles qu'on a en ce moment? On en a 50 % qui ne sont pas utilisées. Sont en friche. Le 53 %, 70 % de cette partie-là, de ce 50 %-là, on le fait pour produire des céréales qui vont, en définitive, pour l'exportation. Est-ce que c'est le meilleur usage qu'on peut faire des terres? Est-ce que c'est pas discutable de réserver des terres pour exporter des cochons en Chine ou au Japon, plutôt que de les donner pour permettre de faire des éco-quartiers, ou pour installer des industries importantes pour le développement économique global. C'est à discuter, là.
Et sur la propriété des terres, qui est donc le fascicule 3 qui va sortir en décembre, à savoir à qui appartiennent nos terres au Québec, il y a beaucoup de rumeurs qui ont couru dans les dernières années sur les Chinois qui achetaient nos terres. Est-ce que finalement, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas simplement des producteurs qui sont propriétaires des terres agricoles au Québec?
Oh, tout à fait. C'est un mythe, cette histoire-là, que nos terres sont en train de se faire acheter par des étrangers ou par des grands holdings financiers. Ce sont les cultivateurs qui achètent les terres. C'est les grosses fermes qui achètent les plus petites de façon générale. T'sais. Et ils les achètent avec l'argent des banques. En définitive, c'est les banques qui possèdent les terres actuellement, t'sais, qui ont la haute main sur la plupart des terres, parce que les grosses fermes qui se développent, qui deviennent des corporations d'ailleurs, peuvent être un peu plus familiales dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est des réseaux, un peu comme des gens qui ont les meuneries ou les gens qui ont les abattoirs, etc., qui vont aussi développer un réseau de terres qui alimente un peu toute la quête. Bon, mais finalement, il n'y a pas personne qui est en train de nous voler nos terres, là. On se les vole, on est en train de se les voler nous autres-mêmes, là.
Alors, sur le plan politique, peut-être pour venir à ce sujet-là aussi, bon, on sait que la CAQ s'est présentée lors de son premier mandat comme le parti des régions. Diriez-vous que c'est aujourd'hui effectivement le parti des régions? Ou alors, est-ce que d'autres partis peuvent se déclarer comme le parti des régions? Deux choses. Émilise Lessart-Herrien vient d'être nommée co-porte-parole de Québec solidaire et on pense qu'elle représente très bien les régions, du moins elle l'a très bien fait quand elle était critique agricole. Également, Paul Saint-Pierre Plamondon, même s'il a acheté des terres agricoles alors que le Parti québécois déconseille d'acheter des terres agricoles, semble avoir le vent en poupe.
En tout cas, le discours que Émilie-Lise Lessard a fait après son élection, c'est le meilleur discours sur les régions que j'ai entendu depuis longtemps. C'est-à-dire, ce n'est pas un discours larmoyant, ce n'est pas un discours victimaire, c'est un discours sur l'implantation d'une démocratie territoriale, sur le Québec est un territoire. Au Québec, la culture est une culture territoriale. Il faut aller vers les communautés de base, les communautés municipales, la démocratie régionale. Il faut aller vers la reprise en main des ressources naturelles qui sont dans chaque région.
Est-ce que j'entends bien Roméo Bouchard qui est en train d'encenser Québec solidaire?
Non, parce que ma première réflexion est de dire, mais c'est magnifique comme discours. Ça fait longtemps que c'est ça que je voudrais qu'on entende, que je voudrais entendre. Mais c'est un discours qui n'a rien à faire avec Québec solidaire. Tel qu'on connaît Québec solidaire et tel qu'on entend Québec solidaire dans ces congrès-là où les gauchistes font leur théâtre. Alors, je me dis, bon, qu'est-ce qui va arriver là?
Mais c'est de l'air frais.
Je vais remporter le morceau ou est-ce que, comme dit Michel David un matin, est-ce que Québec solidaire va sortir de Montréal ou est-ce qu'on va réussir à sortir Montréal de Québec solidaire? C'est une affaire quasi impossible. C'est un défi presque impossible. Et le danger, c'est que ça demeure un slogan public, une espèce de truc démagogique puis électoral pour dire on est le parti des régions parce que Émilie, ça vient des régions.
Il faudra compter sur la conviction d'Émilie Lessart-Herrien, en fait, pour faire de Québec solidaire un parti des régions.
Mais remarque que je pourrais poser la même question à tous les autres partis, y compris au Parti québécois.
Justement, PSPP, vous en pensez
Le
quoi?
Parti québécois, c'est sûr, a un enracinement dans les régions. C'est le parti qui a le meilleur enracinement dans les régions, point de vue des militants, point de vue électoral, etc. Maintenant, au point de vue programme politique, sur la décentralisation régionale, ils ne vont pas plus loin que les autres partis. Il y a toujours eu un blocage au PQ sur la décentralisation régionale. La décentralisation du pouvoir sur donner plus de contrôle des ressources naturelles aux régions, sur les redevances, régionaliser de façon générale la production agricole, la production industrielle, etc.
Est-ce qu'au Parti québécois, en fait, vous nous dites que l'indépendance passera toujours avant les régions?
Ben ça, c'est un peu la réponse que longtemps le Parti québécois donnait. Le Parti québécois, certains ont dit, je crois que c'est Parizeau qui avait inventé la formule, l'indépendance d'abord, la démocratie après. Mais disons que c'est un très mauvais slogan, là. Et ce qu'on voulait dire, c'est qu'il fallait d'abord faire l'indépendance pour pouvoir après réorganiser les pouvoirs, une nouvelle vie démocratique, peut-être plus centrée sur les communautés de base, sur les régions, etc. Mais si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. T'sais. Les politiciens ne veulent pas partager leur pouvoir et de façon générale. Et pourtant, actuellement, il y a une telle désaffection de la population vers les partis politiques, vers l'État, vers la politique en général, qu'on devrait aborder la question de l'indépendance beaucoup plus en termes de souveraineté du peuple que de souveraineté de l'État. C'est-à-dire qu'on devrait, présenter un Québec un projet de Québec démocratie, d'une démocratie territoriale. Et ça, ça reste à faire au PQ comme ailleurs, comme dans les autres partis.
PSPP qui achète des terres alors que le Parti québécois considère que c'est la propriété des producteurs agricoles, est-ce que c'est une erreur selon vous ou c'est juste PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon qui achète des terres au Témiscouata, est-ce que c'est une erreur ou c'est une mauvaise compréhension des médias?
Je crois que là, on fait un plat avec, il n'y a pas de cas là. Qu'un individu achète une terre en région parce qu'il veut, comme je l'ai fait moi-même, venir m'installer en région, ça n'a rien à faire avec la question de la spéculation sur les terres. C'est tout simplement une démarche personnelle que quelqu'un peut faire parce que, ou maintenant, ou dans quelques années, il entrevoit de s'installer plus en région et puis d'avoir... De développer une production artisanale ou l'autre.
C'est une façon d'occuper le territoire, on pourrait dire.
Actuellement, et depuis la pandémie, il y a eu une migration vers les régions considérable, qui n'est pas toujours vers pour des gens qui veulent faire de l'agriculture en région, mais quand même, globalement, il y a une grosse vague migratoire qui s'est produite.
Pour terminer, pour parler d'occupation du territoire, il y a une économie au Québec qui a complètement disparu depuis une vingtaine d'années, 20-25 ans. C'est les courses de chevaux, c'est l'élevage même de cheval de course. Et j'aimerais ça avoir votre avis là-dessus parce qu'en fait, actuellement, on est en train de regarder ce qui s'est passé, pourquoi ça a disparu alors que les entraîneurs en Ontario sont québécois, les jockeys sont québécois. On nous dit que les meilleures saillies des chevaux de course sont québécoises. Et on se dit, finalement, on a laissé partir une économie en Ontario qui était... Certains nous ont même dit qu'au Québec, c'était la Mecque de l'élevage du cheval de course. Puis finalement, ça a complètement disparu. Est-ce que ce n'est pas une façon d'occuper le territoire, d'avoir des chevaux de course qui peuvent après aller courir partout sur les hippodromes au Québec?
En tout cas, c'est sûr que les chevaux, ça fait partie de la culture. C'est quelque chose de profondément ancré dans la culture rurale québécoise. Même plus que rural, parce que même en ville, les chevaux ont eu beaucoup d'importance. Jusqu'à ce que l'auto envahisse tout, l'auto, le cheval était roi. Et non seulement, bien sûr, c'était le cheval de travail, mais il y a eu aussi le cheval de plaisir, le cheval de course, le cheval de sport, qui a pris beaucoup de place. Moi, la ferme que j'ai achetée quand je suis venu en campagne il y a 50 ans, ici, en région, je suis tombé sur un monsieur qui était un homme à cheval, un homme de cheval, qui a passé toute sa vie à s'occuper de chevaux et qui avait ses propres chevaux de course et qui avait son rond de course sur la ferme et qui allait courser... au Témiscouata, en Nouveau-Brunswick, en Gaspésie, jusqu'à l'âge de 80 ans. Et il n'était pas tout seul, tu sais. C'est un peu comme la boxe, pas la boxe, mais la lutte au Québec. Il y a de ces sports populaires qui était vraiment répandu partout, puis apprécié, puis qui faisait partie d'une culture rurale à la base, et qui tout à coup ont disparu de la carte. Et c'est évident que c'est une perte culturelle, et c'est une perte sociale, économique, et ramener ça jusqu'à un certain point, je pense que c'est certainement une bonne chose. T'sais.
Quand on dit qu'on cherche une identité au Québec pour les régions, est-ce que ça fait partie de l'identité québécoise?
Oui, ce sont tous des éléments de la culture profonde québécoise. T'sais. Parce que les Québécois ont vécu pendant deux siècles et demi reclus en campagne. Et ceux qui ont abouti à Montréal au début du 20e siècle, ou dans la première moitié du 20e siècle. C'est tous des ruraux, tu sais, qui revenaient puis qui ont gardé des liens avec la campagne. Moi, j'ai travaillé cet été sur les vieilles granges au Québec, puis bon, c'est incroyable l'écho que ça a quand on parle de ça, parce que même les gens qui ont été élevés en ville, ils disent « Ah, oh, on allait chez mon grand-père, puis en campagne, puis il y avait ci, puis il y avait ça. » Et c'est toute cette culture-là est encore là chez les gens. Mais on l'a occultée. On l'a balayée parce que c'était pas moderne, puis pour toutes sortes de raisons là, qu'il faudrait pour les chevaux... C'est complexe parce qu'il y a eu aussi certaines dérives aussi dans les paris de chevaux. Là. Mais bon, tout à fait. Moi, je considère que le cheval, ça a fait partie de toute ma vie, de mon enfance. C'était le cheval, c'est le roi de la ferme, tu sais. C'est le roi de la ferme, c'était l'auto.
Alors peut-être un retour à l'identité québécoise avec le cheval. Merci Roméo Bouchard de nous avoir reçus aujourd'hui chez vous.
Merci.